et appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez, dans 30 minutes ce sera la libre antenne, comme tous les vendredis, vos réactions, vos commentaires, vos coups de cœur ou coups de gueule sur l'actualité de la semaine. Vous revenez évidemment sur tous les sujets qui vous ont marqué, c'est l'occasion de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse à travers le monde, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission. Vous nous écoutez en ce moment à l'étranger, et je le sais, vous êtes très nombreux, eh bien parlez-nous de l'actualité dans votre pays, quels sont les sujets qui dominent dans votre pays. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. 09 693 693 70. Beaucoup de questions sur la crise politico-familiale qui secoue le Front National, la violente brouille entre Marine Le Pen, la présidente du FN, et son père, l'un des cofondateurs du parti et président d'honneur du Front National. Bonjour Pierre Firsion.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service politique d'RFI. Vous suivez de près le Front National, l'actualité du Front National. D'ailleurs, c'est une journée importante puisqu'aujourd'hui, le FN réunit son bureau politique pour valider les investitures aux élections régionales de décembre prochain. On va très certainement en parler dans un instant avec les auditeurs. La première question nous vient de Centrafrique. C'est Fiacre qui nous appelle de Bangui. Bonjour Fiacre.
Bonjour Juan, bonjour à tous les visiteurs de RFI en Centrafrique, je suis Fiacre Gabiron.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci Juan de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Alors, ces derniers temps, j'ai suivi avec beaucoup d'intention les conflits à RFN. Alors, face à cela, j'ai des questions à vous poser.
Oui.
La première, comment expliquer ces conflits entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen? Ensuite, qu'est-ce qui explique les rétropédalages de M. Le Pen par rapport à sa candidature aux élections régionales?
Ouais, Jean-Marie Le Pen qui a finalement décidé de jeter l'éponge pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pierre Firsion, comment expliquer cette brouille entre Jean-Marie et Marine Le Pen? Faut quand même rappeler que tout est parti, en tout cas la dernière brouille, tout est parti des récents propos polémiques de Jean-Marie Le Pen.
Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein. On peut l'expliquer de différentes façons. D'abord, le premier point, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont deux personnalités totalement différentes. Deux façons, on pourrait dire, d'appréhender leur engagement politique. Marine Le Pen veut le pouvoir, elle l'a dit au cours de multiples interviews, elle vise clairement la présidence de la République, et pour y arriver, elle veut prendre le pouvoir par la base. Donc elle veut travailler sur le maillage territorial, ce qu'elle fait depuis 2011, en ayant tous ses élus. Elle s'est beaucoup engagée sur les dernières municipales il y a un an, sur les départementales, là sur les régionales, et on peut reconnaître que le travail commence un petit peu à porter ses fruits. Elle a 1500 conseillers municipaux, une douzaine de mairies, une trentaine de parlementaires en comptant les parlementaires européens. Donc elle veut travailler sur tout ce maillage en se disant en gros, c'est ce qui va me permettre d'arriver au pouvoir. La différence avec son père, c'est que son père ne voulait pas forcément le pouvoir. Il va reconnaître, vous vous souvenez, en 2002, quand il accède au second tour de la présidence de la République, et il dira après coup qu'il a eu peur d'être élu président. Jean-Marie Le Pen s'est jamais vu comme futur président de la République ou possible président de la République. Il s'est vu comme une sorte de troublion à la tête de sa petite entreprise politique. Il était là pour mener la petite entreprise familiale, pour des fois un petit peu choquer, mais il s'est jamais vu comme accédant au pouvoir. On voit là une stratégie qui est vraiment différente. Et donc ce conflit, c'est un peu aussi, on pourrait peut-être dire peut-être aussi un conflit de génération entre le père et la fille. Ensuite, il y a d'autres choses. Je pense que Jean-Marie Le Pen ne se reconnaît plus dans le parti qu'il a fondé. On rappelle que Jean-Marie Le Pen l'a fondé en 1972. Il se reconnaît plus dans ce parti-là. Il se reconnaît plus, notamment Florian Philippot. On sait qu'ils ne s'entendent pas bien. Les rapports sont polaires entre eux.
Oui, c'est peu de le dire.
C'est peu de le dire. Il y a des tensions qui sont récurrentes. Il considère que le parti, par exemple, sur certains aspects comme sur l'économie, c'est peut-être un petit peu gauchisé.
Mais Jean-Marie Le Pen a l'impression que le parti qu'il a créé se banalise aujourd'hui. Finalement.
Oui, se banalise et ne lui appartient plus. Et donc Jean-Marie Le Pen, vous savez, il a toujours fonctionné comme ça. Il disait un petit peu ce qu'il pensait sans trop y avoir réfléchi. Et d'ailleurs, il disait souvent cette phrase, on peut dire, il faut pas parler du Front National, que ce soit en bien ou en mal, il faut faire parler du Front National. Que ce soit en bien ou en mal. Donc, même si on dit les propos qui choquent, c'est pas grave. Alors que Marine Le Pen a une stratégie différente. On va en reparler sans doute, c'est celle de la dédiabolisation.
Tout à fait.
Et, essayer de gommer les aspects les plus choquants, et notamment, alors elle s'est clairement démarquée de son père, et ça, son père aussi a peut-être du mal à l'accepter, parce que la phase de dédiabolisation, c'est de dire en gros, le FN de Jean-Marie Le Pen, c'est terminé. Et ça, Jean-Marie Le Pen, il a peut-être du mal un petit peu à le vivre.
Alors, Jean-Marie Le Pen briguait la tête de liste en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les régionales de décembre prochain. Finalement, il renonce, il a jeté l'éponge. Fiacre nous demandait comment expliquer ce rétropédalage.
Eh bien, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Marie Le Pen a sondé un petit peu des personnalités qu'il connaît bien en PACA. Alors, il faut déjà dire que la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu son fief. Il y est élu au conseil régional depuis des années et des années. Il a toute sa base qui est là-bas, tous ses proches sont là-bas. Bruno Gollnisch est élu là-bas, Marie-Christine Arnautu. Bref, tous ses proches sont là-bas. D'ailleurs, quand il va se faire des petites meetings ou des petites réunions publiques, il part tout le temps là-bas. Donc, il s'est dit en gros, ben même en tant que dissident, je pourrais peut-être y aller. Et puis finalement, il a commencé à sonder certaines personnes qu'il pensait être de ses proches. Et finalement, ces gens-là lui ont dit, ben non, nous on fait allégeance à Marine Le Pen.
Il s'est aperçu qu'il n'était plus majoritaire.
Il n'était plus majoritaire. Des David Rachlin, des Stéphane Ravier, les deux sénateurs frontistes ont dit, ben vous savez, c'est grâce à Marine Le Pen qu'on en est là. Donc aujourd'hui, ben non, on ne veut plus. Et je pense qu'il y a une seconde raison, c'est que Marion Maréchal Le Pen, a priori, l'a rencontré vendredi dernier.
Donc sa petite fille.
Sa petite fille, et sans doute lui a dit, bon, il serait peut-être un petit peu temps que tu tournes la page. Juste une anecdote là-dessus, quand même. Nous, il y a quelques semaines, on travaillait déjà sur ce sujet parce que en interne au Front National, certains commençaient à émettre l'idée que Jean-Marie Le Pen ne serait peut-être pas candidat. Parce que certains disaient, vous savez, il est âgé, et on sentait qu'au sein de la direction, on essayait déjà à essayer de l'exclure de cette candidature, et on voulait mettre en avant Marie-Maréchal Le Pen.
Il y a d'autres questions au standard. Joadel, qui nous appelle de Pau, dans le sud-ouest de la France. Bonjour Joadel.
Oui, bonjour Juan. J'ai quelques questions à poser par rapport à la brouille entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. La première étant de savoir pourquoi ne soutient-il pas sa fille au lieu de la déstabiliser. Et enfin, la seconde, comment Marine Le Pen gère-t-elle cette crise? En gros, quelle est sa stratégie de communication?
Alors, pourquoi Jean-Marie Le Pen cherche-t-il à mettre des bâtons dans les roues de sa fille?
Mais là, on en revient un petit peu à la première question. Vous savez, ce qu'on disait, Jean-Marie Le Pen ne se reconnaît plus dans le parti.
Il pourrait prendre sa retraite et dire, bon, je laisse ma fille aux affaires.
Là, il faut quand même se souvenir quelque chose. Jean-Marie Le Pen est une bête politique. Je regardais la date de son engagement, de son premier engagement politique. Il était élu député en 1956. Donc, vous imaginez un petit peu, ça fera 60 ans l'année prochaine. Vous pouvez dire comme ça un homme politique, bon, maintenant, il faut que tu tournes la page, que tu passes à autre chose. Il a été un personnage public pendant près de 60 ans. Donc forcément, c'est très difficile de tourner la page. Ensuite, la chose qui est, à mon avis, la plus marquante, c'est que cette phase de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen, il l'a vue un peu comme une attaque personnelle. Et donc, du coup, il a envie de l'embêter un petit peu, de la gêner un petit peu. Et surtout, Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui a fondé ce parti et il a toujours dit ce qu'il voulait. Que quelqu'un aujourd'hui lui donne des ordres en lui disant non, t'arrêtes de dire ça et t'arrêtes de dire ça, il comprend pas. Il n'accepte pas de recevoir des ordres.
Il dit d'ailleurs qu'il n'y a plus de liberté d'expression au sein du Front National.
Voilà, c'est ce qu'il dit et il va continuer à le dire parce que, a priori, ce qu'on lisait encore aujourd'hui là, dans la presse, c'est qu'il va se défendre au sein du bureau exécutif du 27 avril où il va être auditionné pour connaître sa sanction. Il a dit qu'il allait même attaquer et je pense que les tensions au sein du parti sont loin d'être terminées.
Ouais. En deux mots, la stratégie de communication de Marine Le Pen dans cette crise.
Si Marine Le Pen a réagi comme ça, c'était pour plusieurs raisons. Vous savez, Marine Le Pen, elle est déjà en campagne. Elle est d'abord en campagne pour les présidentielles de 2017, sans doute pour les régionales aussi, parce qu'elle va être sans doute candidate, c'est pas encore officiel, mais a priori, il se dirait qu'elle pourrait partir dans le Nord-Pas-de-Calais, ça sera en décembre. Donc Marine Le Pen est en campagne. Elle se dit qu'en 2017, elle peut arriver à être au second tour de la présidentielle, et donc, elle ne peut pas ne pas réagir à ce genre d'attaque. Surtout que, elle l'a d'autant plus mal perçu cette interview que Rivarol est un organe d'extrême droite.
Rivarol étant le journal où Jean-Marie Le Pen a tenu des propos où il défendait le maréchal Pétain.
Voilà, et c'est un journal qui a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par d'anciens collabos. Mmh. Donc c'est un journal assez particulier, hein, une extrême droite très pétainiste, on pourrait dire. Et ce journal a toujours attaqué de manière assez violente le Front National de Marine Le Pen. Et donc ça, elle en a beaucoup voulu à son père d'avoir accordé en plus cette interview-là où il dit des propos assez choquants à cet organe-là.
Amadou est avec nous au téléphone, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous les auditeurs de la ville de Boké, c'est en Guinée.
Très bien, vous êtes guinéen, en tout cas vous nous appelez d'Avignon. On vous écoute avec Pierre Firsion.
Au fait, j'avais deux questions aussi sur l'impasse politique au Front National. Au fait, quel impact cette rupture peut-elle avoir au Front National? Y a-t-il un risque de sécession? Je m'excuse.
Oui, attendez, on va déjà répondre avec Pierre Firsion. Est-ce que le FN risque l'implosion?
Non, alors on n'est plus en 1998, vous vous souvenez, où il y avait eu cette implosion, quand les Bruno Maigret, avec tous ses hommes, étaient partis, avaient quitté le Front National. Là, il y avait eu une véritable scission. Il était d'ailleurs parti avec beaucoup de cadres du FN. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même époque. Le Front National, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, qui est sa nièce, ne pourrait pas tenter de partir. Elle loue beaucoup de choses à Marine Le Pen. En plus, elle a subi quelques échecs électoraux. Hein. Au départemental, elle n'était pas elle-même candidate, mais elle s'est beaucoup engagée dans la campagne. Résultat, le département du Vaucluse n'a pas basculé. Elle s'est, plus récemment, dans la campagne municipale, elle a aussi subi un échec. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'une ligne, c'est la ligne de Marine Le Pen. Et a priori, là-dessus, tout le monde est d'accord. Mmh. Le Front National, c'est Marine Le Pen aujourd'hui.
Autre question, Amadou.
La deuxième question, c'était, Yann, va-t-on vers l'exclusion de Jean-Marie Le Pen au Front National?
Alors, il y aura des sanctions, c'est ce qu'annonce Marine Le Pen. Sera-t-il pour autant exclu du parti? Ça semble difficile.
Oui, ça semble totalement improbable. Vous savez, il y a une personne qui a lancé cette idée, on en parlait, c'est Florian Philippot.
Le numéro 2 du parti.
Voilà, le numéro 2 du parti, qui est le bras droit de Marine Le Pen. Il a lancé cette idée sur Twitter, il a lancé cette idée à la radio, puis après coup sur Twitter, certains de ses proches ont relayé l'idée. Et très vite, ces personnes qui avaient tweeté la possible exclusion de Jean-Marie Le Pen ont supprimé leur tweet parce que ça crée beaucoup de tension au sein du parti. Il est hors de question de s'attaquer au patriarche comme ça. Donc pour eux, a priori, le risque d'exclusion est extrêmement faible. On va voir quand même la sanction. À mon avis, on va peut-être essayer de lui retirer son titre de président d'honneur.
À suivre donc, ce sera quel jour?
Ça sera le 27 avril.
Le 27 avril, vous le disiez tout à l'heure. Merci Pierre Firsion d'être venu dans ce studio répondre à quelques questions donc sur ce feuilleton politico-familial au sein du Front National qui n'est pas prêt de se terminer. Fin du feuilleton peut-être dans une semaine. 33 9 693 693 70. On accueille dans ce studio Maria Carolina Pigna. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes journaliste à la rédaction Amérique Latine des RFI. On vous a demandé de venir car on a reçu des questions sur les relations, on peut le dire, tendues entre les États-Unis et le Venezuela. Bonjour Tierno.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI en général et en particulier à ceux de l'ABE. Sans oublier votre équipe.
Merci de saluer notre équipe et on salue évidemment les auditeurs de l'ABE, c'est en Guinée. On vous écoute Tierno.
En fait, le sommet des Amériques s'est tenu la semaine dernière et le président américain vénézuélien se sont rencontrés et j'ai des questions à ce sujet qui sont les suivantes.
Oui.
Quels sont les secteurs responsables vénézuéliens sanctionnés par les États-Unis? Pourquoi ont-ils été sanctionnés? Et quelles conséquences cette sanction peut engendrer dans les relations diplomatiques entre Caracas et Washington?
Ouais, c'est vrai que la nouvelle brouille entre Caracas et Washington porte effectivement sur les sanctions de sept hauts responsables vénézuéliens. Maria Carolina Pigna, qui sont ces sept personnalités, ces sept individus qui sont visés par les sanctions américaines?
Oui, tout à fait.
Alors, on va ouvrir le bon micro. Voilà, merci.
Oui, tout à fait, Juan. En fait, c'était le 9 mars dernier que Barack Obama a décidé justement de sanctionner ces sept fonctionnaires. En fait, c'est des fonctionnaires des organes de sécurité du Venezuela. Là, on retrouve des gens du SEBIN, c'est le service bolivarien d'intelligence, donc une sorte de service
de
secret de renseignement. Mmh. Il y a aussi des gens de la police nationale bolivarienne, c'est un organe créé par le président Hugo décédé déjà, Hugo Chavez, et aussi des gens des forces armées du Venezuela. En fait, le problème, c'est que, rappelez-vous, l'année dernière, on a eu des grandes manifestations contre le régime de Maduro. C'est des manifestations qui se sont soldées par 43 morts, et dans ce nombre, il y avait énormément d'étudiants qui ont été tués par des balles dans la tête, donc une répression assez forte, et ce qui a été sanctionné justement par les États-Unis, c'est-à-dire que ces fonctionnaires sont des gens qui ont été direct ou indirectement liés à ces manifestations, à cette répression, forte de ces manifestations de l'année dernière, et en fait c'est des gens qui sont présumés accusés des violations des droits de l'homme, parce qu'il faut rappeler aussi que après ces manifestations il y a eu des détenus qui sont toujours en prison, et il y a un certain nombre d'organisations, des ONG vénézuéliennes qui ont dénoncé des tortures à ces détenus actuels dans les prisons du Venezuela.
En tout cas, Maduro, le président vénézuélien, lui, n'a pas tardé à réagir, puisqu'il a immédiatement annoncé des mesures anti-américaines. Il a par exemple donné 2 semaines aux États-Unis pour ramener de 100 à 17 les effectifs de leur personnel à l'ambassade américaine de Caracas. Le Venezuela a décidé d'imposer un visa aux ressortissants américains. Ça peut aller jusqu'où ?
Oui, mais si je peux me permettre, c'était des sanctions qui ont été avant les sanctions prévues par le président américain Barack Obama. Donc en fait, Barack Obama, si vous voulez, on a pensé au Venezuela que c'était une sorte de réaction à ces sanctions qui ont été décidées par le président Maduro.
D'accord, très bien. Ça peut aller jusqu'où ? Parce que c'est vrai que les relations sont tendues. Elles l'étaient déjà sous Hugo Chavez. Elles le sont encore avec Nicolas Maduro. Ce bras de fer entre Washington et Caracas, il va s'arrêter à un moment donné ou...
Bah, on ne sait pas, justement. si vous voulez, ces sanctions, nouvelles sanctions américaines, ouvrent la énième crise entre le Venezuela et les États-Unis. Il faut rappeler que depuis 2010, il n'y a pas d'ambassade américain à Caracas, et il n'y a pas non plus d'ambassadeur vénézuélien à Washington. Donc en fait c'est une crise qui s'éternise, on va dire, et qui date depuis l'époque d'Hugo Chavez, quand il était en vie. Il était connu pour un discours assez anti-impérialiste, comme il disait, contre les États-Unis. Ouais. Donc en fait ça c'est une nouvel épisode de cette crise. Vous disiez relations tendues, je dirais même exécrables. Ça a été un peu apaisé avec ce sommet des Amériques qui s'est tenu
à Panama la semaine dernière, le week-end dernier.
Exactement. Donc en fait, comme il y a eu une main tendue des Américains vis-à-vis de Cuba, le grand allié du Venezuela dans le continent, bon, on craignait justement que Maduro venait justement avec un discours assez tendu contre les États-Unis. Ça s'était apaisé justement parce que la crise entre le Venezuela et Cuba, qui a duré quand même plus d'un demi-siècle, s'est soldée justement par cette main tendue entre Castro et Obama. Mais on a craigné justement que la fête elle a été gâchée par Maduro par rapport à cette crise.
Et finalement, la fête n'a pas été gâchée. C'est vrai que tous les chefs d'État présents sur place ont scruté évidemment la main tendue entre Castro et Obama, mais aussi la main tendue entre Obama et Nicolas Maduro. Une rencontre qui a duré une dizaine de minutes, mais c'était une rencontre très importante pour les relations des deux pays. Un dernier mot peut-être,
Maria Carolina? Oui, qui a été précédé justement par une réunion à Caracas du bras droit de John Kerry, Thomas Chanon, qui était allé parler avec la chef de la diplomatie vénézuélienne. Donc en fait, tout a été fait justement pour que ce sommet se passe de la meilleure manière.
Merci beaucoup Maria Carolina Pina de la rédaction Amérique Latine d'RFI. Tierno, bonne journée en Guinée. On avait prévu des questions également sur la vente de Rafale à l'Inde, puisque la semaine dernière, vous le savez, l'Inde a commandé 36 Rafales. Eh bien, que notre auditeur à Maïna ne s'inquiète pas, nous le rappellerons lundi, et Sébastien Farsi, qui est notre correspondant correspondant en Inde, sera également en ligne pour vous répondre. Donc ne vous inquiétez pas. D'autres questions à la rédaction, ce sera donc lundi. D'ici là, n'hésitez pas, vous nous appelez. Vous voyez que c'est simple. Vous avez des questions, vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Si vous tombez sur le répondeur durant le week-end, surtout n'hésitez pas. Vous nous laissez votre prénom, votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons. C'est promis. Dans un instant, le journal, le point complet sur l'actualité. On sera de retour dans 10 minutes pour la Libre Antenne. Beaucoup de réactions sur la campagne électorale au Togo, sur la défaite du PSG, sur les discussions autour de l'accord de paix au Mali, les attaques racistes à Durban en Afrique du Sud. On en parle dans 10 minutes. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.